RFI, il est 23h30 à Paris, 22h30 en temps universel. Votre édition Afrique Soir présentée par Alexis Guilleux. Bonsoir Alexis.
Bonsoir Juliette, bonsoir à toutes et à tous. La campagne bat son plein au Sénégal avant les législatives de dimanche. Le parti présidentiel espère remporter une majorité à l'Assemblée pour appliquer son programme. Dans le département de Dakar, le plus gros réservoir d'électeurs, plusieurs coalitions de l'opposition se sont unies pour tenter de remporter des sièges. Trois personnes interpellées en Côte d'Ivoire après la diffusion d'une vidéo polémique. On y voit un influenceur manier une importante somme d'argent en cash. Et puis Sakaoune Djim derrière les barreaux au Mali. Il est poursuivi pour ses propos moqueurs tenus sur la présumée tentative de coup d'État au Burkina Faso voisin. Afrique Soir, une journée d'élection au Somaliland. C'était la présidentielle ce mercredi. Les trois candidats promettent de défendre le projet de reconnaissance du pays par la communauté internationale. Le dossier du jour nous emmènera en RDC, au Forum des Affaires Makutano, lieu crucial de la vie économique en Afrique centrale. Et puis en fin d'édition, Pierre Vallée nous fera découvrir le dernier album du jazzman éthiopien Moulata Astatke. Il reste donc deux journées de campagne au Sénégal avant les législatives de dimanche. Dernière ligne droite pour convaincre les indécis. À Dakar, la coalition Samsakadou a organisé une nouvelle étape de sa caravane, étape un peu particulière parce que dans le département de Dakar, une intercoalition d'opposition existe avec les formations de Macky Sall et de l'ancien Premier ministre Amadou Ba. Objectif, obtenir des sièges dans la plus grosse circonscription du pays. Reportage Gwendal Lavina.
En plus de la couleur verte omniprésente de Samsakadou qui organise la caravane, on distingue par endroits le beige de la coalition Takou Wallou menée par l'ancien président Macky Sall. Aliou Mara, coordinateur de Samsakadou dans la commune de Sikap Liberté, revendique de mettre les divisions du passé de côté pour créer un front commun contre le PASTEF.
Cette alliance est une alliance nécessaire. Toute l'opposition s'est réunie, quand bien même on était d'obédience différente, parce que sinon, notre pays va aller à la dérive.
Jean est venu soutenir le maire de Dakar et tête de liste, Barthélémy Dias. Il a souvent manifesté contre Macky Sall, mais avec son vote, il veut surtout sanctionner les 8 premiers mois d'Ousmane Sonko au pouvoir.
Ce qu'on nous avait promis, avant les élections, il nous dit « il y aura ceci ». Depuis lors, rien n'est prouvé. On lui dit de respecter ses paroles et ses ambitions.
Casquette de l'APR, l'Alliance pour la République de Macky Sall sur la tête, Zal Diallo se montre pragmatique sur cette alliance.
En matière de politique, on ne peut dire jamais, jamais. Aujourd'hui, je crois que c'est le Sénégal même qui a envie que toute l'opposition se réunisse. On ne cherche pas la majorité pour renverser le gouvernement. Non, on cherche la majorité pour pouvoir apporter notre pierre à l'édifice.
Dimanche soir, les partis membres de l'intercoalition sauront si le dépassement des clivages qu'ils prônent a séduit les Sénégalais et leur permet de décrocher des sièges. Gwendal Lavina, Dakar, RFI.
C'est une affaire qui fait polémique depuis plusieurs jours en Côte d'Ivoire. Une vidéo où un artiste influenceur connu à Abidjan apparaît en possession de nombreux billets de banque. Trois personnes ont finalement été interpellées après l'ouverture d'une enquête du pôle pénal, économique et financier. Correspondance de Binta Diagne.
La scène est tournée dans une petite pièce. Assis sur une chaise de bureau, Stéphane Agbré, alias Apuchou National, exhibe des liasses de billets de banque dans un sac. Impossible d'en estimer la valeur, mais il y a là une importante somme d'argent. La vidéo postée sur les réseaux sociaux fait le buzz. Au-delà des internautes, elle attire l'attention de la DITT, la Direction de l'informatique et des traces technologiques, ainsi que du pôle pénal économique et financier. Au cours de son audition auprès de la police économique, l'artiste explique que ses fonds lui ont été prêtés par un bookmaker qui était sur le point d'acheter une voiture. De fil en aiguille, les deux autres personnes mentionnées dans cette audition sont également convoquées. Dans un communiqué, le parquet annonce l'ouverture d'une enquête pour déterminer l'origine de ces fonds. Il faut saluer la promptitude du procureur, se félicite un expert des questions de gouvernance, qui appelle toutefois au renforcement des contrôles concernant les transactions en espèces déjà réglementées par une loi. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Issa Kaoune Djim va passer sa première nuit en prison au Mali, interpellé ce matin. Cette personnalité politique, religieuse et médiatique connue des Maliens est poursuivie pour offense commise publiquement envers un chef d'État étranger et injure par le biais de systèmes d'information. Il sera jugé le 12 février prochain. En cause, ses propos tenus dimanche sur la chaîne privée Joliba TV. Issa Kaoune Djim se moque de la dernière affaire supposée de coup d'État déjouée au Burkina Faso voisin. Des mots qui n'ont pas plu du tout à Ouagadougou, David Baché.
Le Conseil de la communication burkinabé dénonce des propos gravissimes, désobligeants et à la limite insultants pour le peuple burkinabé. Sur le plateau de Djoliba TV, ce n'est pourtant pas à la population mais au régime militaire burkinabé que s'en prenait Issa Kaounjim, estimant que les images de ce que la RTB, la télévision d'État burkinabé, présentait samedi comme un flagrant délit de coup d'État déjoué, étaient un montage au sens de mise en scène, visant à détourner l'attention des vraies questions. Ancien soutien d'Assimi Goïta, un temps vice-président du Conseil national de transition, Issa Kaounjim a ensuite rompu avec le régime actuel et a même été condamné il y a 3 ans pour atteinte au crédit de l'État, après avoir critiqué le premier ministre de transition. Issa Kaounjim est aussi le beau-fils et ancien porte-parole de l'influent imam malien Mahmoud Diko, devenu farouche opposant des militaires au pouvoir et aujourd'hui exilé en Algérie. Le directeur de la chaîne Djoliba TV et le journaliste qui animait l'émission en cause sont quant à eux convoqués ce jeudi après-midi par la Haute Autorité de la Communication du Mali pour une séance d'écoute. Il y a 2 ans, la chaîne avait été suspendue pendant 2 mois après un éditorial consacré justement à la restriction de la liberté d'expression.
Serge Mathurin, inculpé et placé sous mandat de dépôt au Niger, le journaliste nigéro-ivoirien accusé par le Burkina Faso dans une affaire d'atteinte à la sûreté de l'État. Il vient de passer 2 mois en détention secrète près de Niamey où il travaille. Serge Mathurin est en bonne santé, c'est ce qu'a affirmé le consul ivoirien à Niamey ce mercredi, Victor Akiesé.
Je l'ai vu, il se porte bien malgré les 2 mois d'incarcération. Il a pu voir sa femme et ses enfants. Notre compatriote est bel et bien à Niamey et que les autorités de ce pays ont décidé de le mettre à la disposition de la justice nigérienne. C'est ce que nous souhaitions. La justice fera son travail puisqu'il a été présenté devant le procureur de la République le lundi 11 novembre. Il a été inculpé comme atteinte à la sûreté de l'État, mis sous mandat de dépôt et transféré à la prison civile de Birni-Ngaouré. Je pense que à la suite d'un procès juste et équitable, notre compatriote sera libéré et va regagner sa famille. Parce qu'on ne sait jamais ce qui lui serait arrivé s'il avait été extradé au Burkina Faso.
Victor Akiesé, le consul ivoirien à Niamey, au Niger. Le procès en appel de Mohamed Ould Abdelaziz s'est ouvert ce mercredi à Nouakchott, en Mauritanie. L'ancien président, au pouvoir entre 2008 et 2019, est accusé d'avoir profité de sa position pour amasser une immense fortune. Il est jugé aux côtés d'une dizaine d'autres hauts responsables, dont 2 anciens premiers ministres. Joël Aïvo est détenu arbitrairement au Bénin. C'est en tout cas l'avis du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. L'opposant béninois constitutionnaliste a été arrêté en 2021 et condamné à 10 ans de prison pour blanchiment de capitaux et atteinte à la sûreté de l'État. Une décision de justice qui avait été contestée et qui, pour son avocat Ludovic Henbel, constitue un cas d'école de détention arbitraire. Ludovic Henbel qui espère désormais que ce rapport du groupe de travail fasse bouger les lignes.
L'avis du groupe de travail des Nations Unies, c'est un groupe composé de 5 experts indépendants de haut niveau. C'est un avis ici qui est rendu, qui est extrêmement clair et catégorique. La détention du professeur Aïvo est arbitraire, constitue une grave violation de ses droits fondamentaux et ses droits de l'homme. Comme c'est une haute autorité qui adopte évidemment une décision en la matière de manière indépendante, cela engage la responsabilité internationale du Bénin. Le groupe de travail conclut de manière extrêmement claire, de manière extrêmement catégorique, au caractère arbitraire de la détention et appelle à la libération immédiate et sans condition de Joël Aïvo et recommande également des réparations pour le préjudice qu'il a subi. Donc cela implique que le Bénin a la responsabilité internationale de respecter ses engagements en matière de droits de l'homme en tant que membre des Nations Unies et de procéder en principe à la libération immédiate de Joël Aïvo.
L'avocat de Joël Aïvo, joint par Paul Lorgerie. Au Tchad, le GCAP maintient son intention de ne pas participer aux élections législatives et communales de fin décembre, échec donc de la tentative de médiation de la CEAC. La communauté économique d'Afrique centrale, le porte-parole du GCAP, groupe d'opposition, estime que participer à ces élections dans de pareilles conditions, c'est enterrer la moindre transparence électorale, compromettre la démocratie, légaliser la fraude et la suspension des libertés publiques. Fin de citation. La France va reprendre son aide budgétaire à la Centrafrique, un don de 10 millions d'euros de l'Agence française de développement, annonce faite par l'ambassadeur de France à Bangui après 3 ans de gel de cette aide budgétaire. Les électeurs du Somaliland étaient appelés aux urnes ce mercredi pour la présidentielle. Des files d'attente devant les bureaux de vote. Trois candidats en lice, tous ont promis de faire de la reconnaissance internationale du pays leur priorité en cas de victoire. Le pays, le Somaliland, n'est en effet pas reconnu depuis sa séparation avec la Somalie il y a 33 ans, Florence Maurice.
En janvier dernier, le président sortant créait la surprise en annonçant que l'Éthiopie s'apprêtait à reconnaître officiellement le Somaliland en échange d'un accès à sa façade maritime. Mais depuis cette annonce, rien, personne n'a eu accès au protocole d'accord censé avoir été signé et l'Éthiopie est sous pression pour reculer. Quelle que soit l'issue du scrutin, une reconnaissance par Addis Abeba semble donc incertaine. C'est désormais vers les États-Unis que les yeux sont tournés. La réélection de Donald Trump à la Maison-Blanche ravive des espoirs. Pendant la campagne, les stratèges conservateurs ont suggéré à leurs candidats de reconnaître le Somaliland pour contrer l'influence de la Chine en mer Rouge. Pékin ayant désormais une base à Djibouti, reste à savoir ce que Donald Trump fera réellement. En attendant, aucun membre des Nations Unies ne reconnaît donc le Somaliland, mais certains ont noué des relations politiques et diplomatiques, comme les Émirats Arabes Unis, c'est une entreprise émiratie qui gère le port de Berbera, ou encore le Danemark et le Royaume-Uni. L'an dernier, les conservateurs britanniques ont même déposé un projet de loi en faveur d'une reconnaissance. Leur argument, faire du Somaliland un pays clé dans la région pour contrer la menace Houthi en mer Rouge. Mais les conservateurs ont perdu le pouvoir à Londres depuis.
Florence Maurice, au moins 6 morts à Nampula dans le nord du Mozambique, bilan donné par la plateforme électorale Decide. Des manifestants tués lors de la répression du mouvement de contestation des résultats de la présidentielle. Ce mercredi marquait en effet le début de la nouvelle vague de manifestations annoncée par Venancio Mondlane, arrivé en deuxième position lors du scrutin du 9 octobre. La situation est en revanche restée plus calme à Maputo, la capitale, où un important dispositif sécuritaire a été déployé. Dans le même temps, l'Afrique du Sud annonce ce soir une nouvelle fermeture de sa frontière terrestre avec le Mozambique en raison d'échauffourées au poste de Ressano Garcia côté mozambicain. La semaine dernière, déjà, une mesure similaire avait été prise pendant 5 jours. Cette fermeture avait coûté au Mozambique près de 6 millions d'euros, selon les autorités du pays.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
RFI 23h42 à Kinshasa, Félix Tshisekedi voit un Congo qui s'affirme et un avenir plein de promesses. Discours du président de la RDC lors de la première journée du Forum des affaires Makutano, 10e édition de ce rendez-vous à Kinshasa, qui se veut être un lieu de discussion entre acteurs de la vie politique, économique et sociétale. Pauline Azidi, un des objectifs, c'est de permettre des rencontres entre secteur privé et secteur public.
Ça a commencé avec une première journée très institutionnelle, qui a commencé avec un peu de retard ici au centre financier de Kinshasa. Le président Félix Tshisekedi a pris la parole pour ouvrir officiellement ce rendez-vous. Il a appelé à l'action pour repenser, je cite, « notre pacte économique et social ». Cet après-midi, les différents intervenants ont, eux, rappelé le but de Makutano, vous le disiez, faire discuter et se rencontrer le secteur privé et le secteur public, permettre aux entrepreneurs de rencontrer les acteurs de l'État dans leurs différents secteurs. En nombre de participants, on peut le dire, c'est déjà un peu une réussite. Beaucoup de ministres, des responsables politiques dans la salle aux côtés des chefs d'entreprise. Mais Makutano veut aller plus loin et inscrire un New Deal à l'agenda de l'Afrique, une nouvelle capacité pour le continent de repenser ses méthodes de développement. Et pour l'une des intervenantes, ce soir, il faut passer par la répétition des événements. Tant que le potentiel de notre continent ne sera pas exploité à sa juste valeur, Makutano existera, a-t-elle déclaré. Et ce n'est que le début du forum. Demain commencent les ateliers avec un panel de haut niveau en ce qui concerne les acteurs économiques et politiques représentés.
Et parmi les domaines concernés par ces rencontres, celui de la culture, un secteur que connaît bien le metteur en scène, artiste et directeur de théâtre Israël Chipamba. Il estime en effet que la culture est un des piliers du développement.
Vous savez que la culture, c'est un levier de croissance économique. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement sans la culture. C'est impossible. Ce n'est pas du tout un slogan parce que, comme vous le savez, on ne développe pas, on se développe. Et qu'est-ce qu'on développe ? On se développe soi-même, ce qu'on est, son identité, ses savoirs, et voilà, voilà.
Alors justement, c'est quoi les défis de la culture à Kinshasa, en RDC ?
Alors, à Kinshasa, les privés font leur part. Vous savez que dans cette ville, vous avez des théâtres, vous avez des galeries, vous avez des ateliers, vous avez des incubateurs. Franchement, les privés font leur part. Maintenant, il faut que l'État réglemente le secteur, il faut que l'État crée des conditions favorables pour que notre secteur puisse aller de l'avant. Vous savez, la République démocratique du Congo, c'est plus de 100 millions d'habitants, c'est 26 provinces, c'est un territoire immense, c'est 450 ethnies, le patrimoine culturel dans ce pays est énorme. La RDC est connue comme étant le pays de la rumba. Mais, le budget ne suit pas. Les moyens ne suivent pas. Aujourd'hui, la culture en République démocratique du Congo, la plupart des festivals vivent grâce à la coopération. Et ça, c'est un défi qu'il faut absolument relever. Il faut changer les choses à ce niveau-là.
Un forum comme Makutano, ça permet quoi ?
Alors, le forum comme Makutano permet déjà de réunir tous les acteurs culturels face au gouvernement, parce que la ministre de la Culture sera là. C'est elle qui préside les travaux. Un certain nombre de ses conseillers sont des modérateurs dans certains panels. Nous avons bien pensé les choses parce que nous avons un message à passer. Il faut que ça bouge. Il faut des politiques publiques d'accompagnement. Le boulot, nous, on le fait. Mais il faut un cadre réglementaire. Il faut des conditions. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Donc, franchement, ici, le premier enjeu, c'est faire rencontrer deux mondes qui ne se rencontrent jamais. C'est ça le plus grand défi.
Israël Chipamba, au micro de Paulina Zidi, envoyée spéciale permanente de RFI à Kinshasa. Par ailleurs, dans l'est de la RDC, un convoi de Médecins Sans Frontières a été attaqué ce mercredi dans le territoire de Masisi, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Goma. L'incident a eu lieu à quelques kilomètres de la ligne de front entre le M23 et les FARDC. Les discours et prises de parole se poursuivent à la COP29, troisième jour de ce rendez-vous mondial pour le climat. Chef d'État et de gouvernement se succèdent à la tribune. Le vice-président gabonais Joseph Owandoubert a également parlé. Il a rappelé l'engagement de son pays pour l'environnement et la nécessité pour les pays riches à mieux accompagner les autres nations.
La population gabonaise subit l'élévation du niveau de la mer, l'augmentation des inondations et les changements dans les régimes de précipitation. Tout cela affecte durablement la qualité de vie de nos populations, exacerbe les conflits entre l'homme et la faune. En réponse, notre pays n'a pourtant eu de cesse d'agir pour la planète et pour la nature. Je réaffirme l'engagement profond de mon pays. À cet effet, notre peuple est appelé à voter par référendum dans 3 jours une nouvelle constitution qui consacre, je cite, l'intérêt profond aux enjeux écologiques, environnementaux, des changements climatiques et de la protection des écosystèmes. Toutefois, le Gabon, comme beaucoup d'autres pays en développement, ne pourra continuer de maintenir un tel niveau d'engagement si la solidarité internationale ne se matérialise pas. La survie de la planète dépend autant de nos écosystèmes que du respect des engagements des pays dont la responsabilité historique est engagée.
Joseph Owandoubert, le vice-président gabonais à la tribune de la COP29 en Azerbaïdjan. Danny Yordan a été interpellé ce mercredi matin par la police de Johannesburg. Le président de la Fédération sud-africaine de football est poursuivi, ainsi que 2 autres personnes, pour des allégations de fraude. Il a pu quitter libre le tribunal contre une caution de 1 000 euros, Valentin Hugues.
En attendant son procès prévu le mois prochain, Danny Yordan est libre. Il avait été arrêté chez lui ce matin, accusé d'avoir dépensé plus de 70 000 euros à des fins personnelles, notamment pour engager une société de sécurité privée. En mars dernier, les enquêteurs perquisitionnent ses bureaux. Des ordinateurs, disques durs et documents sont saisis. Résultat, l'homme de 73 ans se serait servi dans les caisses de la Fédération entre 2014 et 2018. Pour sa sécurité donc, mais aussi pour redorer son image. Avec cet argent, il aurait fait appel à une entreprise de communication, parce que ce n'est pas la première fois que le président de la fédération fait la une de la presse sud-africaine. Celui qui a été aux manettes de l'organisation de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud est aussi accusé de viol par l'ancienne députée Jennifer Ferguson. Le parquet avait décidé de ne pas le poursuivre. Depuis, de nombreuses associations ou partis politiques appellent à sa démission. Aujourd'hui, c'est pour fraude et vol que Danny Yordan était à la barre. À ses côtés, le directeur de la société de communication et le directeur financier de la Fédération sud-africaine de football. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Le football sur les terrains, la 5e journée des éliminatoires de la CAN a commencé ce mercredi. Le Cameroun a concédé le match nul 0-0 en Namibie. Match nul également un partout entre le Tchad et la Sierra Leone. Le Libéria s'est imposé face au Togo, 1-0. Ce sera plus dense ce jeudi avec 9 matchs au programme, avec notamment un duel ouest-africain entre le Burkina Faso et le Sénégal.
Afrique Soir sur RFI.
Alexis Guilleux.
23h50 à Paris, les grands titres de l'actualité internationale. Donald Trump poursuit sa vague de nominations en vue de sa prochaine administration. L'animateur TV de Fox News, Pete Hegseth, prendra la tête du Pentagone. Le représentant républicain Matt Gaetz sera lui attorney général, l'équivalent de ministre de la Justice. Le sénateur Marco Rubio a été choisi pour être secrétaire d'État. Le Floridien est un fervent soutien d'Israël et s'oppose farouchement au programme nucléaire iranien. Israël poursuit son offensive contre le Liban. Des raids aériens ont visé le sud de Beyrouth ce mercredi. Plusieurs personnes ont été tuées. L'armée israélienne a, elle, annoncé de son côté la mort de 6 soldats tués dans le sud du Liban. À Amsterdam, plusieurs dizaines de personnes ont été arrêtées lors d'une manifestation pro-palestinienne interdite par les autorités. Rassemblement qui intervient une semaine après les violences contre des supporters israéliens venus assister à un match de football dans la capitale néerlandaise. Et puis en France, Marine Le Pen était au centre d'un système organisé pour faire du Parlement européen la vache à lait du RN. Les mots du procureur ce mercredi contre la chef du parti d'extrême droite. Le parquet a requis 5 ans de prison et 5 années d'inéligibilité contre Marine Le Pen. On parlait dans le journal il y a quelques minutes, la COP29 se poursuit en Azerbaïdjan. L'occasion de revenir ce soir sur un des projets menés depuis maintenant 3 ans lors de la COP26. Le JTP a vu le jour, un partenariat dans lequel les pays du Nord s'engagent à financer la transition énergétique dans les nations du Sud. Un modèle décliné en Indonésie, au Vietnam, au Sénégal et en Afrique du Sud. 13 milliards de dollars promis, mais les défis sont encore nombreux à surmonter. Dossier Afrique Économie, signé Claire Bargelès.
Un plan d'investissement a depuis vu le jour, estimant à plus de 90 milliards d'euros les besoins afin de réaliser cette transition d'ici 2027. Outre que la somme du partenariat initial est donc loin du compte et qu'elle est constituée principalement de prêts et non de subventions, la distribution des fonds est aussi compliquée selon Joanne Jowicz. Elle gère le financement des projets au sein de la présidence.
Chaque pays amène de l'argent de façon séparée. Les contributions britanniques sont accordées d'une telle façon, les contributions américaines à travers un autre mécanisme et pour d'autres objectifs. Donc, on a affaire à un ensemble d'investissements assez complexes avec chaque pays qui utilise sa méthode habituelle de financement avec l'Afrique du Sud.
Du côté de la société civile, on regrette déjà un manque de transparence au niveau de la distribution des subventions, mais aussi lors du choix des 3 volets prioritaires, décarbonation de l'électricité, véhicules électriques et hydrogène vert, comme l'explique Liane Govindsamy du Centre pour les droits environnementaux.
Je pense qu'il y a eu beaucoup de scepticisme parce que les secteurs prioritaires ont été sélectionnés avant d'avoir consulté les citoyens. Par exemple, pour l'instant, en ce qui concerne les subventions, il y a eu davantage d'argent dépensé pour le secteur de l'hydrogène vert que pour le développement de nouvelles compétences. On peut donc se questionner sur ces choix et se demander si les pays donateurs viennent avec leurs idées prédéterminées ou s'ils écoutent pour savoir ce qui peut fonctionner le mieux en Afrique du Sud.
Après de nouvelles consultations, un plan d'action a finalement inclus d'autres volets à financer. Mais depuis, Pretoria a aussi décidé de retarder de 6 ans la mise hors service d'au moins 3 de ses centrales. Selon Soutame Maimele de l'Institut de Recherche TIPS, il n'est pas évident pour le pays, qui produit près de 80% de son électricité à base de charbon, d'effectuer une transition rapide.
Nous avons eu des problèmes de pénurie d'énergie en Afrique du Sud, donc la question de la sécurité énergétique est un sujet clé. Et on sait aussi qu'il y aura beaucoup de travailleurs de la filière du charbon qui seront touchés, surtout dans la région de Mpumalanga. En tout, on parle de 150 à 200 000 emplois qui dépendent de la filière.
Beaucoup de questions restent également en suspens, comme le choix du futur mix énergétique du pays. Mais le plus gros pollueur du continent sera bien obligé de transformer ses moyens de production s'il veut continuer à exporter vers l'Europe, malgré la taxe carbone aux frontières. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
D'officier, dossier Afrique Économie, ainsi que tous nos articles sur la COP 29 à retrouver sur RFI.fr. Et retour à présent en Afrique de l'Est avec le nouvel album de Mulata Astatke, le vibraphoniste et pionnier de l'Ethio-Jazz, d'Éthiopie donc, associe son vibraphone à la puissance des cuivres de l'orchestre Oudna. À 80 ans, il n'a rien perdu de son inspiration, Pierre Vallée.
Mulatu Astatke est né en 1943 en Éthiopie. Il a étudié la musique en Angleterre et aux États-Unis, où il a même été le premier élève africain de la Juilliard School, la plus prestigieuse école de musique new-yorkaise. De retour en Éthiopie, il a la bonne idée de mélanger les rythmes et mélodies traditionnelles avec ce qu'il a appris, le jazz, la soul et la musique latine. C'est la naissance de l'Ethio Jazz, un style qui s'épanouira à Addis Abeba dans les années 60-70. L'arrivée du dictateur Mengistu mettra brutalement fin à cette fête et il faudra attendre la fin des années 90 et le lancement de la série Éthiopique par le producteur Francis Falsetto pour que l'Ethio Jazz renaisse, s'ouvre au monde entier et se découvre un nouveau public. Grâce à ce renouveau, la carrière de Mulatu Astatke est relancée. Il se produit dans le monde entier et multiplie les collaborations avec les Australiens de Black Jesus Experience ou les Anglais The Heliocentrics. Cette fois, c'est avec un ensemble de Tel Aviv qu'il s'associe, Oudna Orchestra. Un groupe passé maître dans la fusion d'afrobeat, de jazz, de rock et de musique arabe, ce qui souligne parfaitement ce petit parfum oriental propre à la musique éthiopienne qui la distingue des autres musiques du continent. Avec cet album appelé Tension, Mulatu Astatke et Oudna Orchestra nous offrent un disque subtil sur lequel ils ont su allier la délicatesse du vibraphone avec la puissance des cuivres, à l'image de l'ethio jazz à la fois simple et complexe, entraînante et hypnotique.
Major de l'Éthiopien Mulatu Astatke avec son dernier album présenté ce soir par Pierre Vallée. Et pour refermer cette dernière édition d'Afrique Soir, merci à vous et merci à toute l'équipe, Raphaël Lazizi, Benoît Boutorbe, Simon Bulbaudin et Sabine Mellet. Vous restez bien avec nous à l'écoute de la Radio du Monde. Dans 1 minute 30, c'est le retour de l'info. Très bonne nuit à vous.
RFI, la sélection du mois.
Angélique Kidjo, Davido. Sidiki Diabaté et Wally Sek. Lucie Bella.
Escola terá de nós terra, bem prender a moda antiga, bem bano, bem lembra-te.
De Bongo Up e Kefi Yassin.
Levé, boné, briqué, collé, serré, zombifié.
Toute la sélection du mois à découvrir sur RFI Musique.
Santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain,
Journée mondiale du diabète, mieux lutter contre cette épidémie mondiale.
Vendredi.
Émission Questions de femmes, fausses couches et postpartum.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.